Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Pensez qu'elle a maladie? Il lui dit, nous sommes tous malades. Elle lui fait, vous aussi alors? Il lui dit, et si je l'étais vraiment? Qu'est-ce que vous feriez pour me guérir? Elle lui dit, je ferais tout ce que je pourrais. Ce qui est malheureusement fort petit. Il lui dit, pas si petit que ça. Tout le monde a des pouvoirs extraordinaires. Et rit. Et le trouve charmant. Arrivée à Paris, elle lui dit « Amenez-moi au Faubourg Saint-Germain. » Il lui dit « Avant, j'aimerais pouvoir passer chez moi. J'ai quelque chose à prendre. » Elle lui dit « Oui, bien sûr. » Et il l'amène à Montparnasse. Dans une petite rue étroite avec de vieux immeubles sans style et lugubre. Il va arrêter sa voiture devant un de ces immeubles gris et tristes de 4 étages. Il lui dit, je suis arrivé. Vous descendez et m'accompagnez ? Elle lui fait, je peux vous attendre ici, si vous n'en avez que pour 5 minutes. Il lui dit, c'est-à-dire que j'ai besoin d'aide pour prendre mon colis. Elle lui dit, bien, je veux bien vous aider. Ils sortent de voiture et il va la faire entrer dans l'immeuble par une porte étroite peinte en marron. Elle est seule et triste. Elle se dit, le pauvre, il ne doit pas être bien riche. Il lui fait monter les escaliers. C'est au 3e étage. Il ouvre la porte de son appartement. Éclair, entrez. Elle entre. Il a fermé la porte. Ils sont directement dans une pièce délabrée. Il y a une vieille table de bois. Sur la table, sous la table, un grand seau. Sur une autre table, des ustensiles. Un lavabo, une fenêtre, aux volets fermés, les murs ont une tapisserie noircie de papier marron et qui se décolle à certains endroits. Le sol a du parquet qui a été lavé et qui a des taches sombres. C'est lugubre. Il lui dit, c'est chez moi. En fait, j'y suis très peu, parce que je voyage beaucoup. Elle lui fait, oui. Et où est le paquet à prendre? Il lui dit, là. En lui montrant du doigt sur sa poitrine, elle fait, merci, mais mon corps, je ne le donnerai qu'à la personne que j'aimerais. Il lui dit, vous ne pouvez pas attendre. Il faut vous changer le corps, autrement vous allez mourir. Elle lui dit, vous plaisantez? Je dois aller chez ma mère. Où est le paquet? Il lui dit, bien, puisque vous êtes pressé, allons, venez. Et il l'amène vers la table. Et lui dit, couchez-vous. Elle lui dit, quoi? Je ne peux pas vous opérer de vous. Couchez-vous. Ne craignez rien. Ça se passera très vite. J'ai l'habitude. Elle fait, non. Il s'apprête à se retirer. D'un coup de poing, il a fait tomber à la renverse sur la table. Elle est à moitié assommée. Vite! Il attache avec les courroies qui sont fixées sur la table. Elle crie, apeurée, et dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais vous opérer. vous enlevez votre corps. Elle crie, mais... Au fou. Il lui dit, ne criez pas. Ne criez pas comme ça. Vous allez faire trop de sang. Je ne veux pas un cochon. Laissez-moi faire. Elle essaye de se défendre. Il prend sur la table une bouteille et un coton et il lui met sur la figure. Puis il lui verse même toute la bouteille. Elle est dans les vapes. Il peut commencer à l'opérer. Vite. Il lui défait sa veste, lui déchire son chemisier. Il déverse de l'alcool sur la poitrine, prend des pinces, coupe boulon pour lui couper les seins. Il prend un sein et serre. Ça la réveille. Les voisins croient que c'est un film à la télé. Le sang gicle. Ils en giclent même à terre. Une fois que les seins ont été coupés, on prend un burin. Pour ouvrir plus grand le thorax. Ensuite, il prend une scie. Pour lui couper les os du thorax. Prends le corps à pleine main. Elle est évanouie. Et coupe les vaisseaux et les nerfs. Qui tient le corps. Puis, le dépose à terre. Il y a du sang partout. Lui aussi est plein de sang. C'est une horreur. Elle est morte dans des pires souffrances. Ensuite, il prend le corps, l'enroule dans du papier journal. et le dépose à terre. Puis le corps. Il défait de la table. Prend un plastique, un grand sac en plastique, genre grand sac de poubelle. Et l'enroule. Une fois que le corps est enroulé, il faut qu'il nettoie tout ce sang. Il va au lavabo. Prends un seau pour prendre de l'eau et nettoyer. Il se nettoie lui aussi. Et il nettoie. Nettoie à terre. Une fois qu'il a nettoyé la pièce, il se déshabille. Il va changer de vêtements. Une fois qu'il est changé, prend le corps ou le paquet plutôt, le met sur ses épaules, et sort de son appartement. D'une main, il ferme la porte. La porte de l'appartement de son voisin de palier s'est ouverte. Apparaît un homme de taille moyenne, cheveux et barbe grise. Il porte un béret et une veste en laine marron, un pantalon gris et à ses pieds des pantoufles marron charentaises. L'homme ferme sa porte et dit à Frédéric: « Bonjour, monsieur, vous êtes bien chargé ?»« Oui, j'ai 700 thés achetés. » L'homme lui dit: « Attendez, je vais vous aider. Ça vous sera plus simple. » À deux. Frédéric lui dit: « Merci, monsieur. Merci, monsieur Martin. » Et il descend de son épaule le paquet, il donne le côté pied à Martin, qui lui dit: « Je vais bien vous aider, parce que ça a l'air bien lourd. » Frédéric lui dit: « Pourtant je l'ai vidé. » Martin lui dit: « Vous faites toujours des expériences ?»« Oui. » Et ils descendent les escaliers. Martin en premier. Monsieur Martin lui dit: toujours des opérations pour le corps? Oui, il y en a de plus en plus, Chaque fois que je vois une personne, je me dis, celle-là, il faut que je m'en occupe. Et Martin dit, tu dois être pénible et enrichissant. Pénible, oui, mais pas très enrichissant, pas très avantageux. Et puis je travaille dans de très mauvaises conditions et ça me rapporte rien. Ah, pourquoi? Parce que je ne fais pas payer. Vous êtes un saint, docteur. Ils arrivent en bas des escaliers et ouvrent l'allée. Il fait déjà nuit. Monsieur Martin demande, on le met où? Il lui dit, je vais être obligé c'est de le jeter dans une décharge. Parce que la dernière fois que je l'avais mis dans une poubelle, la concierge avait gueulé à cause de l'odeur. Ce Martin lui dit, personne n'est compréhensible et n'aide la science. Il met le corps vers la voiture. Il mène le corps vers la voiture et le dépose à terre. Frédéric ouvre le corps, le coffre, et le met le corps dedans. M. Martin lui dit, cette fois, c'est un gros paquet. Frédéric lui dit, non, pas trop. Allez, merci. Il entre dans la voiture pour la mettre en route. Là, il va arrêter sa voiture devant une décharge. Sort de voiture, ouvre le coffre, met le corps dans la décharge et retourne à sa voiture. Mets la voiture en route. Et retourne à Paris. Il se dit, maintenant que j'ai un corps tout neuf, tout beau, je dois trouver un client pour lui mettre. Et la voiture s'enfonce dans la nuit. Pendant ce temps, la mère de Claire s'inquiète. Elle est seule dans son appartement, boulevard Saint-Germain. C'est une grande dame, mince, dans les 42 ans, porte une robe beige. Son appartement est un appartement meublé 19e. Il se trouve dans un bel immeuble de 4 étages. Voilà bientôt 24 heures que sa fille est partie à la soirée des Francs Blancs et au salon et se demande ce qui a pu lui arriver. Elle décide de téléphoner à Monsieur Franc Blanc, on ne sait jamais, ou à Madame Franc Blanc. Elle peut avoir des nouvelles. Elle prend son téléphone, fait le numéro.
Allô, je suis bien chez Madame Franc Blanc.
Oui, madame.
Je suis Madame Calandre. J'aimerais parler à Madame Franc Blanc, s'il vous plaît. Franc Blanc, mère.
Merci. Bien, madame, je vais voir.
La bonne sort du bureau pour aller voir Madame Franc Blanc qui est toute à nous. Elle frappe.
Entrez.
Elle entre. Et dit,
madame, il y a une Madame Calandre qui désire vous parler au téléphone.
Madame Franc Blanc dit,
je ne vois pas qui est cette personne. Bien. Je vais prendre la communication.
Elle va vers son téléphone qui se trouve sur une table basse. Décroche, appuie sur un bouton.
Allô, Madame Calandre?
Je vous écoute. Je suis Madame Franc Blanc. Que désirez-vous me dire?
Bonjour madame, je vous téléphone, c'est parce que je suis très inquiète pour ma fille. Elle est partie hier au soir, vers ces heures-ci, et n'est toujours pas revenue. Je vous téléphone parce que, pour savoir si vous saviez quelque chose.
Madame Franchement lui dit.
Non, madame. Et je ne sais même pas qui est votre fille. Elle était à notre soirée. Il y avait tellement de monde. Je vais demander au maître d'hôtel si elle est venue. Vous pouvez attendre un peu.
Oui, madame.
Madame Franc Blanc a posé le combiné et dit à la bonne.
Dites au maître d'hôtel de venir avec le cahier des invités qui sont venus à ma soirée.
Bien, madame.
Et la bonne quitte la pièce. Une minute plus tard, on frappe à la porte.
Entrez.
Entre le maître d'hôtel avec un cahier à couverture de cuir rouge. Elle lui dit,
approchez.
Il est approché. Elle lui demande,
est-ce qu'une demoiselle Calandre était à ma soirée d'hier?
Maître d'hôtel regarde sur son cahier et dit,
oui madame,
Claire Calandre m'a remis son carton d'invitation. Charlotte lui demande, « Ne savez-vous pas quand elle est partie par hasard ?» Le maître d'hôtel lui dit, « Non, ça aurait été impossible de le savoir. » Charlotte dit, « Eh bien, merci. » Le maître d'hôtel se retire. Elle reprend le combiné.
Madame Calandre, c'est moi, Madame Franblanc. Je viens de me renseigner. Votre fille est bienvenue à notre soirée. Mais il est impossible de savoir quand elle est partie.
Je suis navré, madame. Si j'ai du nouveau, je vous le dirai.
Oui, j'ai votre numéro. Parce que je vous ai fait passer une invitation.
Bonsoir, madame. Elle raccroche. On frappe à la porte.
Entrez !
Entre son fils. Il va vers elle. L'embrasse. Tu vas bien ?
Oui. Je vais très bien. J'ai eu un appel téléphonique de Madame Calandre. Sa fille a disparu. Tu ne sais pas, toi, avec qui elle est partie hier, ou si elle est partie seule?
Frédéric réfléchit et lui dit. Gilbert réfléchit et lui dit.
Il me semble qu'elle est peut-être... Elle a dû partir assez tôt. Elle a dansé... toute la soirée avec ce Gilles Traîne. Ils ont dû partir ensemble. Elle lui dit,
et c'est peut-être important, je vais prévenir la mère.
Elle est partie vers les quelle heure?
Je crois avant minuit. Elle demande,
et avec ce garçon?
Oui, il me semble, et son compagnon. Tu sais, ce Frédéric.
Charlotte regarde sur son carnet le numéro de téléphone de Madame Calandre et fait le numéro.
Allô? J'aimerais parler à Madame Calandre.
Madame Calandre, c'est Madame Franblanc.
Je me suis renseignée.
Voilà. Votre fille est bien venue chez nous et partie avec deux garçons, un dénommé Gilles Traîne et l'autre Frédéric Borche. Ils ont quitté la soirée vers les minuit.
Je ne peux rien vous dire de plus. Ce sont des jeunes gens charmants de notre monde, ou plutôt du vôtre.
Voilà, je vous conseille, c'est de... vous renseignez auprès de ces deux jeunes gens. Je vous fais passer l'adresse sur ordinateur. À bientôt, madame.
Elle raccroche. Elle se demande si elle n'a pas été trop loin en disant que ce sont de bons jeunes gens. Parce qu'ils ont une réputation terrible, trouble. Malgré qu'on n'ait rien à leur reprocher, bien sûr. Même pas quelque chose d'équivoque. Mais... ce Frédéric... avec sa famille un peu étrange, où l'on meurt si bizarrement, enfin, ils ne font pas vraiment partie de notre monde. C'est des roturiers, provinciaux. Et elle se lève pour sortir du salon. Et aller au bureau. taper sur l'ordinateur les adresses des deux jeunes gens. Elle va taper l'adresse des deux jeunes gens en se disant « Pauvre femme !» Lendemain matin, Madame Calandre, qui a reçu les coordonnées des garçons, décide de téléphoner par hasard pour voir à l'un des deux garçons. Au hasard, elle fait le numéro de Frédéric dans son salon.
Allô? J'aimerais parler à Madame Borche ou à Monsieur Frédéric Borche. Merci. Allô? Monsieur Frédéric Borche? Il est absent? Vous êtes sa grand-mère. Bonjour, madame. Je m'excuse de vous déranger, mais j'aurais besoin d'un renseignement. Ma fille est allée à la soirée des Francs Blancs. Hier au soir, elle n'est pas revenue. J'ai téléphoné à madame Francs Blancs qui m'a dit que ma fille était partie avec votre fils et un autre garçon. Alors je me suis permis de vous téléphoner pour savoir s'il ne savait pas quelque chose. Bon, vous le lui direz. Merci, madame. Madame Calandre, boulevard Saint-Germain, numéro. Elle lui donne son numéro de téléphone. La grand-mère de Frédéric se demande ce que c'est encore que cette histoire. Midi, lorsque Frédéric entre pour déjeuner, il va retrouver sa grand-mère au salon. D'habitude, ils ne se disent même pas bonjour. Là, il lui dit, viens t'asseoir. Il va s'asseoir en face d'elle. Elle lui dit, Madame Calandre a téléphoné. Ça ne te dit quelque chose, ce nom? Frédéric réfléchit. Non, rien. Rien du tout. La grand-mère lui dit, il paraît que tu étais avec sa fille à la soirée des Francs Blancs. Frédéric devient tout rouge. Il pense au cadavre, au crime de Gilles. La grand-mère le voit et se dit, il sait quelque chose. Elle lui dit, tu es sûr que tu ne connais pas cette fille? Il lui dit, non, je ne vois pas. Et puis, si j'ai connu, ça n'a pas dû être bien sérieux, une connaissance de soirée, la grand-mère lui dit. Madame Calandre m'a dit au téléphone que Madame Franblanc lui avait dit que vous étiez partis, toi et Gilles, ensemble avec cette fille qui a disparu depuis alors. Il lui dit, ah oui, on l'a juste raccompagné jusqu'à la fin du jusqu'au bout du boulevard Velasquez, et voilà. La grand-mère se dit qu'il doit savoir plus de choses, mais qu'il ne veut rien dire. Elle se dit, ce sont leurs affaires. S'il y a quelque chose d'autre, je le saurai. Dans l'après-midi, elle retéléphone à la pauvre mère pour lui dire ce que lui a dit son fils. Le jeudi après-midi, Frédéric retrouve Gilles en bas de Montmartre. Ils avaient envie de marcher dans un autre quartier. Il y a très peu de monde. Le froid empêche les visiteurs de déambuler. Les touristes plutôt. Frédéric attend son ami en bas des escaliers qui montent à la butte, qui se trouve presque en face des studios portés. Gilles arrive et vient à lui. Salut. Salut. Gilles lui demande, ça va ? Frédéric lui dit, oui, mais ma grand-mère a reçu un appel téléphonique. Je lui dis, il fait froid, marchons un peu. Et ils se mettent en marche. Montent les escaliers qui donnent à des petits immeubles du 19e tout blanc. C'est dans ce coin que les Américains ont tourné L'amour en héritage. C'est très joli. Frédéric lui raconte ce que lui a dit sa grand-mère. Je lui dis, ne savent rien de plus. Nous dirons la même chose et toujours la même chose. Qu'on l'a laissé au coin du boulevard. N'avons rien à craindre. Nous sommes des fils de bonne famille et les fils de bonne famille ne font jamais rien de mal. Gilles demande, tu sais ce qu'elle est devenue? Non. Elle doit se terrer de honte, Frédéric lui dit. Mais elle va parler et dire ce qu'on lui a fait, et la maison, le cadavre et tout. Gilles lui dit, c'est bizarre qu'elle n'ait pas cherché à parler. Et pourquoi a-t-elle disparu? Frédéric lui dit, elle est peut-être morte, elle aussi. Je lui dis, morte de quoi? De ce qu'on lui a fait? Je lui dis, une fille ne meurt pas de ce genre de choses. Oui, mais il y a l'alcool en plus. Non, c'est ridicule. Elle a disparu. C'est une bonne chose. Comme ça, elle ne peut parler. Frédéric lui dit, à moins que la police l'ait prise et qu'il n'ait pas son identité ou qu'il n'ait pas eu le temps de prévenir la mère, de toute façon, elle risque de nous dénoncer. Je lui dis, si elle est à la police, c'est foutu. Nous sommes perdus. Il ne reste plus qu'à nous cacher. Si elle n'est pas prise, il faut l'empêcher de parler. Il a été dit. Comment savoir ce qu'elle est devenue? Je lui dis, en faisant une enquête. On commence comment et où? Même sa mère ne sait pas où elle est. Je lui dis, on commence toujours une enquête par l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois, la personne. C'était dans cette maison. Et puis, de toute façon, faut l'empêcher de parler. À tout prix.
Frédéric lui dit, on ne va pas retourner là-bas.
Si, on y est bien obligé.
Et comment on n'a pas de voiture?
Je lui dis, prenons la voiture de ma mère.
Il décide, c'est d'aller.
Cet après-midi, Ben.
Plus vite nous serons, mieux ça vaudra.
Parce que si nous avons quelque chose à faire, il faudra le faire le plus vite possible.
Pour l'empêcher de parler.
Ils vont prendre la voiture de la famille Agile.
Arrivé devant l'immeuble, Gilles appuie à l'interphone.
Oui, c'est moi. Pouvez-vous dire au chauffeur de descendre? Nous avons besoin de lui pour une course.
Merci. Frédéric lui dit, le chauffeur va savoir que l'on va là-bas. Ce n'est pas bien.
Gilles lui dit, ne te fais pas de soucis. S'il parle, il sait qu'il perdra sa place. Il n'y tient pas trop.
La porte de l'immeuble s'ouvre. C'est chauffeur, un grand homme dans les 30 ans, blond, mince, habillé en chauffeur.
J'y lui dis, excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais.
C'est aller en dehors de Paris. Pouvez-vous nous y conduire?
Bien, monsieur.
Et le chauffeur va chercher la voiture qui est dans le garage souterrain de l'immeuble.
Frédéric lui dit, tu vas te souvenir où est la maison?
J'ai lui dit, oui, on n'oublie pas ce genre de choses.
Elle était près d'un petit village.
J'ai le nom,
le Condorcet.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.